Vivre FM
Podcast. Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
C'est Axel Kahn, le président de la FIRA, qui a lancé la troisième rencontre handicap, recherche et citoyenneté qui s'est déroulée à l'auditorium de l'Hôtel de Ville de Paris, jeudi 12 mars. Et comme chaque année, partenaires, porteurs de projets et autres personnalités intéressées sont venus assister à une rencontre particulièrement riche en informations et en découvertes. Annonce des lauréats de l'appel à projet 2015, table ronde sur des projets de recherche en cours, discussion au cours de la citoyenneté des personnes handicapées. Ce moment d'échange a permis de faire le point sur les actions soutenues par la FIRA et sur l'apport des projets de recherche pour la vie quotidienne des personnes handicapées. Si l'intégralité de la rencontre sera bientôt disponible en ligne, ou est peut-être même déjà disponible en ligne sur le site de la FIRA, www.fira.org, eh bien Vivre FM vous propose dès maintenant d'en découvrir quelques extraits dans Recherche et Partage. Bonjour et bienvenue à l'écoute de Recherche et Partage, une émission qui vous est proposée en partenariat avec l'OCIRP, tous les troisièmes samedis du mois sur Vivre FM. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté qui a eu lieu en mars 2016. Et démonstration a encore été faite de la nécessité de renforcer les programmes de recherche qui visent à améliorer l'autonomie des personnes handicapées et alors donner un accès réel à la citoyenneté. Ça tombe bien parce que c'est pour ça que la FIRA soutient depuis 2009 des projets de recherche appliqués dans lesquels la collaboration entre acteurs de terrain et chercheurs est essentielle. Et le premier extrait de la rencontre que nous allons écouter va vous présenter un projet de recherche qui s'appelle Communiquons ensemble, co-construction d'un espace communicatif multimodal entre personnes porteuses de trisomie 21 et personnes ordinaires, un projet dont nous vous avons déjà parlé sur Vivre FM. Et ce projet implique des chercheurs de l'Université de Grenoble et des membres de l'ARIST, l'Association de Recherche et d'Insertion Sociale des Trisomiques, qui collaborent pour améliorer la communication avec les personnes trisomiques. C'est un projet exemplaire à bien des égards et il est en tout cas exemplaire dans son déroulement. Et les acteurs qui étaient présents en plateau lors de la rencontre sont venus nous parler, nous présenter leur collaboration. Alors parmi les voix que vous allez entendre, il y a Marion Dohen qui est chercheuse à l'Université de Grenoble et maître de conférence au département Parole et Cognition du laboratoire GIPSA, GIPSA signifiant Grenoble Image Parole Signal Automatique. Voilà, c'est un laboratoire que se partagent l'Université de Grenoble et le CNRS. Donc il y aura Marion Dohen, il y aura aussi Amélie Rocher-Capellan qui elle est chargée de recherche au CNRS et travaille aussi au laboratoire GIPSA. Vous entendrez Franck Lichat qui est président de l'association ARIST, Association de Recherche et d'Insertion Sociale des Trisomiques. Et puis vous entendrez aussi la petite voix de Caroline Rocher-Capellan qui est membre aussi de l'association et qui est une chercheuse en devenir, n'en doutons pas.
On ne peut pas dire non plus qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle dans la trisomie 21. Pendant très longtemps, c'est quand même un handicap qui a été réduit à la déficience intellectuelle. Et en fait, l'impression qu'on avait, notre constat à nous, ça a été que en fait, tout était... étant donné qu'on pensait que ces personnes, de toute façon, naissaient avec une déficience intellectuelle, c'est pour ça qu'elles avaient des difficultés à communiquer. Or, petit à petit, les recherches, on se rend compte quand même que si elles ont des difficultés à communiquer, c'est parce qu'elles ont un gros problème avec la parole, en fait. Et ce problème avec la parole, il n'est pas qu'ancré dans la déficience intellectuelle. Il est ancré, comme on va le voir peut-être sur le slide après, sur plusieurs choses. La première, c'est que pour elle, parler, c'est difficile parce que la parole, c'est difficile en soi. C'est pas que difficile pour les personnes avec trisomie 21. C'est difficile parce que le système de production de la parole est très difficile à apprendre à contrôler. C'est difficile parce que ça demande de bien entendre, ça demande d'être capable d'analyser une information acoustique rapidement. Ensuite, c'est difficile pour les personnes avec trisomie de communiquer parce qu'en fait, leur interlocuteur adopte des comportements qui sont pas forcément adaptés. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Si on est dans une situation où notre interlocuteur adopte un comportement où il ne nous laisse pas le temps de parler, où il n'utilise pas le même vocabulaire que nous, où il utilise des choses qu'on ne comprend pas, et bien de toute façon, nous aussi, on va avoir du mal à communiquer. Donc ça, c'est augmenté encore pour les personnes avec trisomie 21. Et du coup, nous, on travaille sur deux aspects. Un premier aspect qui est la gestualité. La gestualité manuelle qui est beaucoup plus facile à contrôler pour les personnes avec trisomie 21. Et un autre aspect qui est aussi sur la diffusion et l'échange, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites dans les pays anglo-saxons sur la communication et qui arrivaient très peu en France, notamment sur la multimodalité, la gestualité. Et l'autre aspect sur lequel on travaille beaucoup et qui nous prend d'ailleurs beaucoup de temps et de créativité, qui est l'implication des personnes avec trisomie dans la recherche, donc qui est l'axe échangé du projet.
Et c'est Marion Dohen qui reprend la parole cette fois-ci pour nous parler des différents axes stratégiques de la recherche.
On a plusieurs études expérimentales en cours dans chacun des axes. Donc dans le premier axe, qui est le but pour nous, c'est d'identifier plus précisément les difficultés de parole auxquelles sont confrontées les personnes porteuses de trisomie 21, notamment dans le but d'orienter potentiellement les rééducations orthophoniques. Donc on fait des études expérimentales où on va enregistrer dans une chambre sourde, en conditions de laboratoire, des personnes qui vont répéter par exemple des syllabes, qui vont dénommer des images, etc. Et puis nous, on va analyser les signaux derrière avec nos compétences de chercheurs en parole. On va analyser ces signaux pour voir les différences, pour voir les problèmes d'intelligibilité et d'où ils peuvent venir. Donc dans l'axe qui est plus sur l'interaction, on a fait déjà des enregistrements donc avec Amélie où on a filmé des interactions entre une personne porteuse de trisomie 21 et une personne ordinaire qui parlent librement ou qui font des tâches qu'on a clairement choisies et identifiées pour mettre en valeur certains comportements communicatifs. Le but étant d'identifier en situation réelle les comportements facilitateurs et les comportements inhibiteurs, notamment de la personne ordinaire. Donc qu'est-ce qui fait que les deux personnes se comprennent bien ou au contraire qu'elles se comprennent moins bien? Dans l'axe sur la gestualité, on a regardé la gestualité des personnes dans l'interaction, puis on s'est intéressé à l'apprentissage de nouveaux mots par les enfants porteurs de trisomie 21, et on a essayé de voir si quand on associe un geste manuel au nouveau mot à apprendre, celui-ci était mieux appris par exemple que quand il n'y avait pas de geste associé.
Et bien sûr, nous avons écouté un témoignage de Caroline Rocher-Capellan qui nous avait écrit un petit texte spécialement pour l'occasion.
La trisomie 21, c'est parler, c'est communiquer avec les autres, c'est penser et transférer ses besoins en collectivité. Beaucoup de ces choix sont compliqués, avec un chromosome en trop. Mais avec un chromosome en trop, on peut parler, danser, être attentif, jouer à la guitare, chanter au micro. On peut faire des randonnées. Si j'étais chercheuse, je pourrais travailler dans l'association FIRA. Il y a beaucoup de choses à réaliser dans le projet.
Et écoutons pour finir un dernier mot de Franck Lichat, le président de l'association ARIST, Association de recherche et d'insertion sociale des trisomiques. Franck qui prend la parole en tant que personne forcément très proche des trisomiques 21.
Proche, oui, puisque on accompagne notre fils régulièrement au laboratoire d'Amélie et Marion, par exemple. Mais surtout, en conclusion, je dirais que j'ai appris un mot que j'ignorais complètement et que j'ai eu un petit peu du mal à assimiler au début, c'était ce terme de recherche participative. Et ça, c'est quelque chose que sur Grenoble, on avait peu coutume de pratiquer. Et on va l'encourager, on va essayer un petit peu de noyauter ces cercles de recherche pour que cette recherche participative stimule un petit peu les propositions en matière de travaux sur la trisomie et d'une manière générale sur la déficience intellectuelle.
11h midi, recherche et partage avec la FIRA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage, en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap. On est en train d'écouter des extraits de la troisième rencontre Handicap, Recherche et Citoyenneté. Et l'extrait qu'on va vous passer dans un instant va nous intéresser sur la nécessité de maîtriser l'application concrète des résultats de recherche. Alors, quand on cherche, évidemment, c'est pour trouver. Et quand on trouve, eh bien, justement, on veut que les résultats puissent être analysés, partagés, compris par le plus grand nombre. Sinon, à quoi bon ? Et tout de suite, je vais vous laisser en compagnie du professeur Geneviève Petitpierre de l'Université de Fribourg, en Suisse. Elle a été conviée à notre table ronde pour nous parler de la mise en application des connaissances, sujet qu'elle a étudié de près.
Écoutez, je crois que le petit film et la table ronde précédente a bien montré, je crois, les enjeux de cette question de mise en pratique et d'utilisation des connaissances. C'est vrai que je crois qu'il faut voir à la fois la question des résultats de la recherche dans un sens assez large, avec un certain nombre de distinctions conceptuelles qu'on peut faire sur différents niveaux de résultats. Je propose en fait de distinguer plusieurs niveaux de résultats, différents types de résultats. Et je crois qu'effectivement, comme l'a montré le petit film et la table ronde précédente, on a d'abord un premier niveau qu'on peut appeler les résultats de recherche qui sont directement issus finalement des études et qui sont des constats générés par l'étude en tant que telle, les nouvelles connaissances qui ressortent de cette étude et qui correspondent à la question « qu'est-ce que j'ai constaté ?» Donc, à la fois Marion Doen et Amélie Rochet disaient on observe des signaux, on constate un certain nombre de, je dirais, différences au niveau des productions, par exemple, vocales, avec et sans les gestes. Et ce type de résultats sont des résultats qui restent souvent encore dans un cercle assez étroit, qu'il va falloir finalement faire diffuser et porter à l'extérieur sous une autre forme. Donc c'est ce qui nous permet, je dirais, d'élargir le champ des bénéficiaires des résultats de recherche, des destinataires. Et le deuxième niveau de résultats, c'est ce qu'on peut appeler les extrons. C'est un terme un peu compliqué, un peu je dirais peut-être particulier. La FIRA utilise par exemple le terme de livrable. On entend aussi parfois le terme de produit. Hein, il y a plusieurs manières en fait de décrire ce deuxième type de résultats. C'est les résultats mis en forme, c'est-à-dire les résultats qui vont déjà vers l'implication. Des résultats qu'on peut trouver du reste, par exemple sous forme de publications, dont des revues par exemple de professionnels, dans des revues scientifiques éventuellement aussi, mais aussi par exemple tous les produits qui sont en lien avec les matériaux d'intervention, le matériel pour l'évaluation. On a vu tout à l'heure par exemple que ainsi que le disait l'une des chercheuses, il y a utilisation de matériel, par exemple, dans le cadre de la recherche, et ce matériel peut-être être ensuite diffusé de façon plus large pour susciter, par exemple, des apprentissages dans le domaine de la communication. Donc, les extrans, c'est un deuxième niveau qui est un niveau de résultats diffusés sous une forme concrète, sous une forme parfois théorique ou conceptuelle, mais qui va pouvoir, en fait, élargir le champ des bénéficiaires. Et le troisième niveau, c'est bien sûr les retombées, c'est l'appropriation, c'est-à-dire, on entendait également dans le film une maman qui disait elle a démarré. Elle a démarré de façon plus soutenue la communication grâce à ce matériel, grâce aussi à cette participation à la recherche. Et là, on est dans un niveau finalement de généralisation, de changement de compétences, de niveau de compétences, parfois de niveau de changement d'attitude. Et c'est quelque chose en fait qui impacte plus largement la communauté ou les différents acteurs. Donc c'est vraiment un niveau de généralisation complète finalement des résultats de la recherche. Et je pense que cette triple distinction, elle est importante parce qu'elle nous amène à d'une part penser de façon différente les responsabilités, les engagements des chercheurs dans ces trois niveaux, également aussi les engagements financiers. Ça nous amène à penser le processus de recherche de façon différente parce qu'effectivement la recherche ne s'arrête pas au résultat, à la première étape. Elle doit aller vers les extrants, elle doit doit, si possible, aller vers des retombées. Donc, on a vraiment à penser un processus beaucoup plus ample que ce qu'on avait imaginé initialement.
Toujours à propos de l'application concrète des résultats de recherche, nous avons invité, lors de la table ronde, Virginie Saout, qui est médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation, ce qu'on appelait autrefois la rééducation fonctionnelle. En gros, la médecine qui traite, justement, qui a trait au handicap. Et Marie-Christine Casal, qui elle est vice-présidente de l'UNAFTC, l'Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens et de Cérébraux Lésés. Elles nous ont présenté les résultats d'un projet de recherche qui est en cours, qui est quasiment terminé, un projet qui est soutenu par la FIRA et qui s'appelle « Troubles comportementaux post-traumatiques, analyse et valorisation de l'expertise des proches et des blessés ». Et ce qui a été particulièrement intéressant dans leur prise de parole a été justement d'expliquer en quoi les résultats de ce projet de recherche ont été extrêmement bien valorisés pour être partagés et diffusés au plus grand nombre.
Oui, ce qui nous a lancé dans la recherche, bien sûr, c'est de se dire que les proches étaient les premiers experts de la situation, mais je veux dire, le point de démarrage, c'est la clinique en ce qui me concerne, le quotidien en ce qui concerne Marie-Christine, c'est de constater qu'après un traumatisme crânien grave notamment, ce qu'on appelle médicalement les troubles comportementaux post-traumatiques, qui à mon avis sont pas une belle expression, il vaudrait mieux l'appeler les modifications comportementales, eh bien c'est quelque chose de très fréquent. C'est quelque chose de fréquent et qui pose problème pour un bon nombre des proches, proches familiaux, mais aussi proches professionnels, parce que dans notre étude, on a interrogé à la fois des personnes qui sont à domicile, avec leurs conjoints, leurs enfants ou leurs parents, mais aussi des personnes qui vivent en institution, dans des maisons d'accueil spécialisées, par exemple, des lieux d'hébergement. Le but, c'était d'être vraiment le plus large possible dans cette étude. Donc le point de démarrage, c'était ça, de se dire, il y a, la littérature nous dit, la littérature médicale, mais aussi l'expérience nous dit qu'il y a des modifications de comportement après un traumatisme crânien. Grossièrement, c'est à peu près deux tiers des cas après un traumatisme crânien. L'idée de démarrage, c'était de se dire quelles sont ces modifications comportementales, posent-elles problème, oui ou non, et si oui, dans quelle mesure, pour qui, quand, comment. Ça, c'était vraiment finalement la première étape de l'étude qui a consisté en interroger quasiment au total 250 personnes avec des passations de questionnaires. Ça, c'est comme on fait dans les études médicales, hein, avec pour une part des questionnaires pour le proche qui essaye de déterminer si oui ou non il y a des modifications de comportement, mais aussi les répercussions que ça peut avoir pour l'aidant. Et pour le blessé, le traumatisé crânien, c'est l'interroger sur son niveau de fatigue, sur son niveau éventuel d'anxiété, de dépression, sur sa qualité de vie. Donc, grossièrement, à peu près les premier questionnaire, ce qui nous a permis d'avoir des premiers résultats pour faire écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc des premiers résultats qui confirment qu'il y a bien des modifications de comportement qui posent effectivement problème pour une grande majorité des proches, qui ne posent pas forcément problème pour les blessés en eux-mêmes, mais ça c'est encore un autre type de résultat. Les premiers résultats nous ont aussi conduit à constater que la plupart des blessés se plaignaient de fatigue de façon assez importante, mais aussi beaucoup d'anxiété et une bonne partie aussi probablement de dépression. Donc ça c'était voilà, une première part des résultats, j'allais dire assez épidémiologiques, médicaux, un peu classiques, mais notre étude, on souhaitait qu'elle aille plus avant, et donc la deuxième partie, c'était ce qu'on appelle les entretiens semi-directifs, réalisés à la fois avec des proches, pour la grande majorité des proches familiaux, donc conjoints, conjointes, enfin plutôt conjointes en fait uniquement, parents, mais aussi quelques professionnels, donc des entretiens avec des proches et aussi des entretiens à chaque fois avec le blessé, enfin quasi à chaque fois avec le blessé. Ces entretiens-là, ils avaient pour but justement d'essayer de déterminer quelle était cette fameuse expertise d'usage. Parce que donc, le postulat de départ, c'est de se dire que face aux modifications de comportement, la médecine doit être assez humble. Il n'y a pas grand-chose qui marche, entre guillemets. Les thérapeutiques médicamenteuses, elles peuvent apporter une certaine aide, mais en aucune mesure, elles ne pourront guérir si tant est qu'on puisse guérir, parce que ce n'est pas une maladie.
Elles ne pourront traiter.
Voilà, elles ne pourront traiter. Elles pourront, en revanche, être efficaces, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, quand il y a une dépression, là, bien évidemment. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, les médicaments, on les met de côté, on s'en sert, mais voilà, à petite dose. La rééducation, qui est ma spécialité, il faut être aussi assez humble sur l'efficacité de la rééducation. Le postulat de départ, c'est de se dire, les proches, qu'est-ce qu'ils en disent, eux, et quelle est leur expertise. On s'était dit au départ que les proches, ils allaient se considérer comme, en quelque sorte, experts. Et le premier des résultats des entretiens, c'est que quasiment tous les proches ont dit, non, moi, je ne suis pas expert, je fais ce que je peux, j'ai mis ça en place, mais franchement, ça ne marche pas à tous les coups, de toute façon, c'est difficile, il faut laisser le temps faire son œuvre, j'ai mis ça en place, moi, mais peut-être que pour le voisin, ça ne fonctionnera pas. Ce qui allait aussi dans le sens de l'un des postulats de départ, de se dire que les nombreux guides qui existent, parce qu'il y a en fait beaucoup de guides qui existent sur les troubles comportementaux post-traumatiques, que faire, avec des espèces de trucs et astuces de conseils qui sont certes très utiles, mais l'idée de départ, c'est de se dire que ça ne pouvait pas être des trucs et astuces qui fonctionnent à tous les coups. Donc les résultats confirment cette hypothèse-là. L'autre résultat, c'était que la plupart des proches, quasi tous en fait, ont dit qu'ils avaient souffert d'un manque d'information, d'une part, mais aussi d'un manque de soutien de la part des professionnels, d'un manque d'écoute. Ils sont peu sentis reconnus par les professionnels, que ce soit à la phase initiale, alors là, plutôt un manque d'information, ou un peu plus loin parfois, un manque de reconnaissance de, finalement, leur expérience, leur connaissance, leur savoir. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez important. Et puis, d'autres résultats assez importants, c'était aussi, là, c'est quand on compare avec les entretiens, avec les blessés, c'est que là où les médecins disent qu'il y a des troubles comportementaux post-traumatiques, les blessés, eux, disent absolument pas qu'ils ont des troubles comportementaux. Et donc, j'ai une collègue qui dit « il n'y a pas de trouble du comportement, il n'y a que des comportements qui nous troublent ». Et je trouve que c'est tout à fait judicieux, enfin tout à fait fin, et c'est bien ce que nous disent les blessés. Alors, bon, ça on le savait déjà, évidemment, mais il n'empêche que ça vient vraiment confirmer ça, et ça vient confirmer un espèce de hiatus entre la personne qui ne se sent pas en situation de handicap et l'environnement qui lui renvoie qu'il est bien en situation de handicap. Et ce hiatus-là, ça peut aussi, bien évidemment, majorer les troubles du comportement ou les modifications de comportement. C'est-à-dire que le blessé, certes, il peut reconnaître qu'il n'est pas le même qu'avant. Pas toujours, d'ailleurs. Il y a une grande majorité des cas où le terme médical, c'est l'anosognosie, c'est-à-dire l'absence de reconnaissance. Mais il n'y a pas toujours de l'anosognosie. C'est aussi qu'il y a beaucoup de blessés qui disent « bah oui, je ne suis pas le même qu'avant, mais je suis quand même aussi le même qu'avant ». Les proches disent aussi ça. C'est souvent l'exacerbation de la personnalité antérieure. Donc ça ne fait pas forcément toujours trouble. Ce n'est pas forcément trouble pour chaque membre de la famille. Entre les familles et les professionnels, il peut y avoir des discordances. Voilà, ça c'était une grande part des résultats. Et puis, une autre partie, c'était que finalement, dans tout ça, les troubles, ce qui était important, c'était aussi comment est-ce qu'ils étaient interprétés, quel sens ils pouvaient prendre dans une histoire de vie, dans l'histoire de la famille, mais aussi dans une institution. Ce qui nous a conduit à nous dire que, initialement, l'idée, c'était de pouvoir retransmettre tous les aussi conseils que pouvait l'expertise du JAJ, le savoir-faire des proches. Donc, on a toute une liste, en fait, de conseils, de stratégies, quand même, que les proches nous ont dit, même sans se dire expert, il n'empêche qu'au fur et à mesure des discussions, on a pu lister plein de choses qui peuvent pallier les difficultés, aggraver ou faciliter la communication, les interactions. Mais, et c'est pour faire écho à ce que vous disiez, les extrants, on a donc pris le parti de construire ce qu'on a appelé un module atelier à destination des proches et des professionnels.
Et c'est Marie-Christine Casal qui reprend la parole, la vice-présidente de l'UNAFTC, pour nous parler précisément du Théâtre Forum.
Oui, alors le Théâtre Forum, ça a été vraiment pour moi une rencontre extraordinaire, parce que quand Virginie nous en a parlé, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc dans lequel on s'embarque? Mais les familles ne sont pas venues pour faire du théâtre, vraiment ça va être... Et ça a été une journée très très riche, puisqu'on a joué des scènes, on a imaginé les scénarios, on a joué ces scènes, et puis on a dit chacun ce qu'on pensait, comment on aurait réagi, et c'était complètement riche, et même je peux dire que ce jour-là, les familles qui étaient là, moi je ne les connaissais pas avant. Il s'est passé quelque chose entre nous. il s'est passé quelque chose entre nous, entre toutes ces familles. C'était vraiment, vraiment quelque chose de très fort. Et je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'on va pouvoir le multiplier partout en France où il y a des familles qui vivent avec des proches qui ont des lésions cérébrales.
Vous écoutez Recherche et Partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Handicap, rencontre et citoyenneté, c'était le titre de la troisième rencontre qui s'est tenue en mars, organisée par l'AFIRA pour démontrer toute la nécessité de soutenir des projets de recherche appliqués. Et on va écouter dans un instant deux personnalités, Jean-Claude Amezen et Joseph Chauvanet, qui nous ont fait le plaisir de venir débattre, de venir discuter ensemble de la citoyenneté des personnes handicapées, du regard qu'ils ont porté sur cette citoyenneté, un regard parfois pessimiste, et en tout cas que nous avons écouté avec plaisir. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Jean-Claude Amezen et Joseph Chauvanec.
Je crois que c'est tout l'enjeu de la FIRA. Hein. Il y a un grand problème de citoyenneté dans notre pays. Ce qu'on a entendu, la recherche participative, le fait d'avoir un libre choix, je crois que la réflexion éthique, ce qu'évoquait Axel Kahn en termes de liberté, le choix libre et informé, l'information qu'apporte la recherche et le fait qu'elle est mise à la disposition de la liberté de chacun, c'est un des piliers de l'éthique biomédicale depuis 70 ans, depuis ce qu'on appelle le code Nuremberg. Et donc je crois que cette question de citoyenneté, qui est une question politique, qui est une question démocratique, croise de très près cette question éthique, qui est celle du choix libre et informé. Et donc entendre la personne elle-même, entendre les proches, ne pas parler à la place des autres. Je crois que la première étape de la citoyenneté, c'est de reconnaître la subjectivité de la personne et de permettre d'entrer à la personne, d'entrer en dialogue. Mais pour entrer en dialogue et reconnaître la subjectivité, il faut aussi écouter et il faut aussi se mettre à la portée, rentrer en dialogue avec la personne. On a vu qu'il y avait des moyens de communication à la fois pour les proches et pour les personnes handicapées. Et ces moyens de communication n'ont de sens, là encore une fois, que s'ils permettent, s'ils sont l'objet d'un choix. Plus la personne devient autonome, plus elle peut participer au choix, plus ses proches peuvent participer au choix, et plus petit à petit on arrive à une notion de citoyenneté, c'est-à-dire d'exercice de la liberté, de l'autonomie. Le problème, et on le voit bien, c'est qu'il n'y a pas de... On est d'autant moins libre qu'on n'est pas aidé par les autres à être libre. Et plus on a de problèmes, comme le disait Axel Kahn, à exercer sa liberté, et plus on a besoin des autres, non pas pour guider ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit penser, mais pour donner la possibilité, la pleine mesure. Et je crois que dans notre pays, c'est quelque chose qui démarre, c'est quelque chose dans c'est une entreprise dans laquelle la FIRA joue un rôle majeur, un rôle pionnier, mais c'est quelque chose où on est très en retard par rapport à beaucoup d'autres pays. Un seul exemple qui nous a frappé quand on a fait il y a 8 ans au comité consultatif national d'éthique un avis sur la situation des personnes, enfants et adultes atteints d'autisme en France, quelque chose qui nous frappe. Et je parle d'autisme et on le retrouverait dans toute une série d'autres situations. Et on le retrouve, par exemple, de manière très importante chez les personnes âgées qui deviennent handicapées en raison de l'âge. En Suède, isoler une personne en institution, l'envoyer ailleurs pour l'aider, la couper des liens avec sa famille, son environnement, son lieu de vie, est considéré comme une privation des droits civiques fondamentaux. Et donc, contrairement à ce que nous avons l'habitude de faire, l'aide, l'accompagnement, la possibilité d'exercer son autonomie et de la liberté est apportée à la personne là où elle vit, chez elle ou proche de chez elle. C'est pas la personne qui est envoyée ailleurs pour qu'on l'accompagne dans une situation d'isolement. Donc je crois qu'à toutes les étapes, aider la personne à être plus libre, aider les proches à aider la personne. Souvent, on parle des aidants familiaux en France. Les aidants sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Et donc, ce qu'on a vu là, c'est que il faut aider les aidants à inventer eux-mêmes, librement, la meilleure façon qu'ils imaginent d'aider les personnes qui en ont besoin. Donc, je crois que de proche en proche, construire une citoyenneté pour les personnes handicapées, c'est les inclure dans un réseau de solidarité qui les rend plus libres, là où elles vivent, près de chez elles. Je vais prendre un seul autre exemple qui vient aussi d'Europe du Nord, qui concerne d'autres formes de handicap qui sont des handicaps de la mobilité. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes âgées ou des personnes qui ont subi des accidents sont obligées de partir en institution? C'est que l'appartement ou la maison dans laquelle elles vivent n'est pas adapté aux situations de handicap. Qu'est-ce qu'on fait dans notre pays? On construit avec beaucoup de difficultés et toujours un retard et des lois qu'on repousse, des lieux et des appartements qui sont adaptés à un handicap de mobilité. Mais lorsqu'une personne qui n'est pas handicapée devient handicapée en raison d'un accident ou de l'âge, eh bien son appartement n'est pas adapté. Qu'est-ce qui se passe au Danemark? Tous les appartements sont adaptés. Et donc une personne qui devient handicapée a un appartement adapté à cette situation. Et donc je crois que la façon, là encore, dont on pense à la fois la citoyenneté de la personne handicapée et le fait que le handicap peut survenir à n'importe quel moment, et que donc c'est très artificiel de ranger ou de segmenter la population en personnes handicapées et en personnes non handicapées, hein, crée des problèmes ensuite d'exercice de la citoyenneté. Et donc je crois que c'est quelque chose qui est très général. C'est pas simplement la liberté qu'on doit donner, l'autonomie qu'on doit permettre à laquelle on doit aider les personnes handicapées à atteindre. C'est une construction du lien social qui fait que si le handicap, quel que soit le handicap, survient un jour, eh bien ce réseau qui rend possible l'exercice de la citoyenneté, de la liberté pour une personne handicapée, est déjà prêt. Qu'il ne s'agit pas en permanence de le construire autour de la personne, qu'il est déjà prêt dans la manière dont nous construisons notre façon de vivre ensemble. Et quand je dis la subjectivité, et Joseph Chovanec en est une illustration remarquable, je crois que quand on parle de citoyenneté des personnes handicapées, et en particulier d'handicap qui touche à la communication, d'handicap qui touche justement aux possibilités d'interaction, le fait de s'exprimer, que ce soit de s'exprimer oralement, que ce soit de s'exprimer en langage des signes, on a un grand problème là aussi à généraliser l'utilisation du langage des signes, pour les personnes sourdes, le fait d'écrire des livres, quelle que soit la manifestation de la subjectivité, c'est une façon de reconnaître la pleine citoyenneté de la personne. Et je crois qu'on est en retard. Joseph Chovanec a écrit des livres remarquables. Je voudrais rappeler que le premier livre écrit par une personne avec autisme, ce qui avait frappé le neurologue et écrivain Oliver Sacks à l'époque, c'est 1986, il y a 30 ans, aux États-Unis. C'est le premier livre de Temple Grandin, dont Oliver Sacks disait, c'est un livre extraordinaire, c'est une voix qui vient d'un lieu où on pensait qu'il n'y avait pas de voix. Hein, puisque la forteresse à laquelle faisait allusion Axel tout à l'heure, malheureusement pour Bruno Bettelheim, c'était la forteresse vide. Et donc une voix venait, et donc je crois que écouter, reconnaître, donner la possibilité d'expression sous quelque forme que ce soit, c'est une des premières étapes de la citoyenneté. Je crois qu'il n'y a pas de citoyenneté s'il n'y a pas de reconnaissance d'une subjectivité, quelle que soit la difficulté qu'il y a à entendre ou à pouvoir exprimer cette subjectivité.
Alors, je pense que Joseph sera d'accord avec vous sur le constat, le retard, un terrible retard que nous avons en France sur la citoyenneté réelle des personnes handicapées. C'est comme ça que vous le voyez aussi, Joseph, un retard et finalement une citoyenneté qui n'est pas réelle, qui n'est pas,
merci,
pas dans le fait.
Merci. C'est toujours un très redoutable honneur de passer après Jean-Claude Ameisen. Et plus que jamais, je me sens un peu comme dans la nouvelle un peu oubliée de Franz Kafka sur un singe qui a été invité par l'Académie des sciences à parler de sa vie de singe. Naturellement, le dit ça, l'image a refusé de faire un témoignage. Et je rends grâce donc particulièrement à la FIRA de ne pas m'avoir demandé de faire de témoignage. Donc, bon, pardonnez pour cette introduction quelque peu abrupte, mais c'est peut-être pour tenter d'excuser par avance mon vocabulaire qui peut être quelque peu direct, eu égard notamment à la situation parfaitement scandaleuse, et je crois qu'il n'y a pas d'autre terme, de la citoyenneté, ou plutôt non-citoyenneté, des personnes en situation de handicap dans un certain nombre de pays, mais en particulier en France, puisque tel est le sujet de ce soir. Alors, pour en revenir peut-être à certains éléments fondamentaux, on m'a toujours appris, du moins à l'époque lointaine où je m'étais égaré dans un établissement auquel je ne pensais pas, hein, ça va Sciences Po, que la démocratie, ça consistait à choisir entre plusieurs options qui sont proposées. Mais lorsque aucune option n'est proposée, qu'est-ce qu'on fait ? Je ne veux pas soulever de mauvaises et méchantes polémiques, mais supposons que l'on soit parent d'un enfant porteur d'autisme. Lors des dernières présidentielles, ou lors plutôt de la campagne des dernières présidentielles, combien de candidats ont évoqué même allusivement l'autisme ? En fait, il n'y a qu'un seul qui a évoqué l'autisme, et je tremble de citer son nom, hein, si vous voyez qui c'était. Voyez. Donc ceci n'est pas une situation admissible. Il n'est pas admissible que les situations de différence humaine, de handicap, ne soient pas représentées dans le monde politique. Il n'est pas admissible que vous puissiez devenir homme politique, y compris de tout premier plan, sans jamais avoir pris la parole sur le handicap, ou sur l'autisme, ou sur d'autres sujets un peu plus spécialisés, que sais-je. Vous voyez, ce n'est pas admissible. C'est pourtant le cas majoritaire, voyez-vous. J'ai croisé, il y a quelques jours, un ancien ministre de l'Éducation nationale. Par pudeur, je tairai son nom. Mais le choix est assez restreint. Hein, voilà. Et il m'a avoué, tout benoîtement, qu'il n'avait jamais entendu parler de l'autisme. Voici donc quelqu'un qui était chargé, en chef, hein, si j'ose dire, du devenir scolaire de tant de centaines de milliers, voire de millions d'enfants, et entre autres d'enfants porteurs de handicap. Et comment se fait-il que ce responsable-là puisse reconnaître qu'en fin de compte, il n'a pas du tout été mis en présence de ce type de problématique ou de questionnement ? Or, lorsqu'il n'y a pas de scolarisation, ou lorsque cette scolarisation est extrêmement problématique ou extrêmement fragmentaire, vers quoi on s'achemine ? Quel sera le devenir de ces gens-là ? C'est un véritable défi. Lorsqu'on nous parle des personnes handicapées dites déficientes, et lorsqu'on nous objecte, « Ah oui, mais Joseph, c'est très joli ce que tu racontes, mais lui, on voit bien qu'il est déficient. » Ah oui, peut-être, mais pourquoi est-il déficient ? Est-il nécessaire de rappeler face à l'honorable Assemblée qu'au XIXe siècle, et même au début du XXe siècle, toutes les sommités de la médecine de l'époque insistaient et disaient de fort méchantes choses sur, j'allais dire, la performance intellectuelle des personnes sourdes. Voilà. Et j'essaye de trouver la formulation la plus diplomatique, mais le texte qu'on trouvait à l'époque n'était pas diplomatique du tout. Hein, si vous voyez les termes qui étaient utilisés. Pourquoi cela ? Parce qu'on n'avait pas eu l'idée même que les enfants sourds puissent apprendre. Vous voyez, ça paraît bête, mais on a mis de longues années avant de comprendre cela. La même chose pourrait être dite à propos des femmes. Hein. Rechercher, je m'étais amusé à faire des petites collections de citations sur l'intelligence des femmes, ce qu'écrivaient les sommités médicales du 19e siècle et du début du 20e siècle. Hein. Vous imaginez aisément la teneur des propos qui étaient tenus à l'époque. D'ailleurs, dans Balzac et dans d'autres, un compliment tout à fait exceptionnel qui était fait à une femme en particulier, c'était de dire qu'elle avait l'intelligence d'un homme. Mais ce n'était que dans des cas tout à fait exceptionnels. Pourquoi ? On sait que c'était des bêtises parce qu'on a fini par comprendre que les petites filles pouvaient apprendre, pouvaient aller à l'école. On a mis très longtemps à le comprendre.
Et dans Recherche et Partage, nous venons d'écouter des extraits de la rencontre Handicap Recherche et Citoyenneté de la FIRA. On espère que cela vous a plu et que vous serez nombreux l'année prochaine à venir assister à cette rencontre. En tout cas, en attendant, pour écouter les extraits que vous venez d'entendre et bien plus encore, on se retrouve sur le site de la Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le handicap, www.fira.org. Vous retrouverez toutes les vidéos de cette rencontre. Et puis, un dernier mot pour vous rappeler que l'appel à projet 2016 est encore en cours, mais seulement jusqu'au 26 mars. Donc, dépêchez-vous si vous avez envie de présenter des projets de recherche. Et quant à cette émission, bien sûr, vous la retrouvez en podcast sur le site de Vivre FM très prochainement. Et nous, on se retrouve, eh bien, dans un mois.
Vivre FM, podcast.